Bonjour, place à la récré de France Culture jusqu'à 13h58. À l'affiche Madeleine, pourquoi tu déménages, le feuilleton de Jacques Jouet. Et le parc des lieux communs proposé par Ricardo Mosner avec Patrice Delbourg, l'employé du mois.
Je travaille boulevard du cliché, je consigne les platitudes, je chaperonne les palissades, je préside les évidences, j'espionne les rengaines. Il me reste encore 24 ans à tirer, soit 288 mois, soit 8640 jours, ce qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant. Ah, pardon.
Ensuite, dans la nostalgie de Roland-Garros, les gonfleurs de textes. Les mots nouveaux pour le dire d'Éval Massy, une page de Publi Papoucité. Et les bourrimés de Jacques Vallée et Jean-Bernard Pouy, alias Patrice de Châteaudun. Avec le critique du jour, Lucas Fournier.
En fermant l'ouvrage de Patrice de Châteaudun, on sent bien qu'on ne restera pas indemne. On est étonné de l'audace d'un vers libéré des contraintes de la métrique. Libéré des objurgations impérieuses de la rime. Libéré du sens ordinaire, libéré d'à peu près tout.
François Strossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à podcaster sur franceculture.fr. Merci de votre fidélité et bienvenue dans la bande aux nouveaux auditeurs. Et tout démarre avec une fin, celle du feuilleton de Jacques Jouet, dernier épisode aujourd'hui. Madeleine, son héroïne, ne tient pas en place. À peine arrivée dans une ville, elle en épuise les charmes trop vite et se lasse. Nouveauté d'hier, train-train d'aujourd'hui. Son brave homme de mari Charles ou Charles, selon les jours et son humeur plus ou moins baudelairienne, la suit, même s'il préférerait se poser plus longtemps. Alors, partie d'Issoudun pour Clermont-Ferrand, puis Charleville, hier, Paris, j'en passe. Nous les retrouvons pour le 9e épisode. Jacques Jouet.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages? Et pour aller où? T'es pas bien là où tu es? Non. Stop. Charles, arrêtons les frais, Charles, dit Madeleine, ça ne va pas. Nous tournons en rond, nous nous noyons dans un verre d'eau, mais ce n'est pas une raison pour aller habiter Noyon. Allons, fini de tourner en rond, allons à Tournon, puisque c'était prévu. Tu en avais fait l'hypothèse en son temps. Va pour Tournon. Mais pourquoi Tournon, au fait? Parce que Mallarmé, le cher Mallarmé, celui qu'après Baudelaire j'affectionne le plus parmi nos poètes, Mallarmé y fut malheureux. Tu connais un poète heureux, toi, Madeleine? Et pourquoi pas? Ça ferait un beau challenge, Charles. Être un poète heureux. On peut toujours rêver, dit Charles, mais le cher Stéphane, lui, il était les deux. C'est encore plus fort. Heureux et malheureux. Heureux dans les chicanes d'un sonnet difficile, mais rendu fou par ses élèves du lycée et par le Mistral. Les poètes ne nous ont pas toujours porté bonheur, Charles, dit Madeleine, qui se souvient de Charleville. Et puis, il faut que je te dise, j'ai quelque chose à t'annoncer, Charles. Quoi, tu es enceinte? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Alors quoi? Nous sommes ruinés, Charles. Toutes nos économies ont fondu au soleil de Clipperton. Ruinés! Mais c'est formidable, ça, dit Charles. Ça n'a aucune importance, l'argent. Ruinés, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. C'est exactement ce que disait Mallarmé à ses amis, qu'à peine arrivé à Tournon en Ardèche, il était voué à l'art et à la dèche. C'est authentique. C'est authentique, c'est dans une lettre du 30 août 1864, tu peux vérifier. L'art et la dèche. On ne dira jamais assez à quel point il adorait les calembours, Mallarmé. Si c'est vrai, c'est tout à son honneur, dit Madeleine. Ce n'est rien, dit Charles à Tournon. Je donnerai des cours d'anglais comme Mallarmé et comme Verlaine. Oui, oui, Verlaine a été professeur d'anglais dans un collège lui aussi, mais pas longtemps, à Rethel. Nous aurions pu aller habiter Rethel, pourquoi pas? Rethel, t'aurais pu me remonter les bretelles. Et il avait une méthode révolutionnaire, Verlaine.
Je connais.
Il considérait que pour que les petits Français apprennent à bien prononcer l'anglais, ceux-ci devaient apprendre à prononcer le français à la façon anglaise. Si bien que dans la classe le matin, ils devaient accueillir le professeur en prononçant en chœur « Bonjour, monsieur Verlaine ». C'est Mallarmé qui le raconte. Non, non, je n'invente rien là encore. Je donnerai des cours d'anglais. Et toi, Madeleine? Ah bah, tu donneras des cours de pêche à la ligne dans le Rhône qui coulera au fond de notre jardin. Aujourd'hui, il faut inventer son métier, Madeleine. Ne pas attendre la bouche ouverte d'être assisté par l'État comme un vulgaire patron. Il faut être résolument flexible autant qu'absolument moderne. Or, grâce à la mobilité désormais légendaire de Charles et de Madeleine, les déménageurs bretons ont créé une filiale, les déménageurs teutons, à rayonnement européen. Ce sont eux qui s'occupent du dernier déménagement de Madeleine. Les gros bras sont turcs, Et comme il se doit, ils sont forts comme des Turcs. Madeleine a préparé un pique-nique pour eux. Taboulé, börek, baklava, raki. Elle s'entretient longtemps avec l'un d'eux qui est derviche. Tourneur ? Tourneur ? Bien sûr. Bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr Tournon. Je vais devenir derviche tourneuse à Tournon. Et puis je vais ouvrir un cours. Je suis sûr qu'il y aura de la clientèle. Bonne idée, madame. Mais enfin, Madeleine, dit Charles. Silence, on tourne, réplique Madeleine. Quand Madeleine a quelque chose en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et elle commence consciencieusement, par correspondance et sur The Toile, à suivre des cours de derviche tourneuse. Bientôt, elle peut ouvrir un cours, tout niveau, à la MJC. Pendant ce temps, Charles distribue des flyers à la sortie du lycée Gabriel Faure, cours d'anglais de la main droite, derviche de la main gauche. La main gauche a bientôt tout distribué, personne ne veut des flyers de la main droite. On a bien fait de venir à Tournon, Charles. Laisse là ton anglais et tournons ensemble. Tu as raison, dit Charles. L'important, c'est de regarder ensemble dans la même direction. Tu me fais tourner la tête. Ils s'habillent tous les deux de longues robes blanches dont les pans se soulèvent emportés par la force centrifuge. Madeleine et Charles n'arrêtent pas de tourner comme des toupies heureuses. Ils tournent à s'en faire péter la conscience. Tournons, tournons, il en restera toujours quelque chose. On s'en va, dit Madeleine, on déménage. On décolle, dit Charles. Bah oui, on est léger. Leurs jambes fines ressemblent à des battants de cloche. On va habiter dans les airs? Oui, Charles. Comme Icar? Non, Charles, mieux que ça, beaucoup mieux. Mais où? Dans les états et empires du soleil et dans la lune, comme Cyrano, le premier, je veux dire, le seul, le vrai. Youhou! Youhou! Ah bah, ils ont complètement disparu. Fin.
Eh oui, salut Charles et Madeleine.
La fin du feuilleton.
Non, ils vont revenir quand même.
Vesoul version Ginès Buch. Alors vous êtes sûrement comme nous, vous aimez vous balader au beau jour dans les parcs d'attractions, aventures ou aqualand, thématiques BD pour les enfants, mais aussi parfois plus exigeants, des parcs qui offriraient une plongée dans l'univers d'un écrivain. Nous étudions la possibilité d'un parc à la Hugo ou à la Dickens, un Dicoland, un parc du roman fleuve, un Coculand aussi, ça c'est différent, un parc pour les nuls ou bien les hypochondriaques. Et nous avons un stock d'idées formidable. Reste à trouver l'argent pour les réaliser. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui en comité pour étudier le projet de Ricardo Mosner, un imaginatif Ricardo qui porte un projet ambitieux. Quel genre de projet ?
Un projet très original m'est venu à la tête. Les parcs du lieu commun.
Du lieu commun.
Un endroit où l'on pourra se retrouver sans prescription d'âge, de sexe, de religion. Tous les individus, peu importe leurs idées politiques, leurs conditions sociales ou leur métier. Un espace où l'on pourrait partager un lieu commun, physique, réel, vaste, existant. Repère de lieu commun, centre accueillant toutes les évidences du monde. Le parc du lieu commun est consensuel. Il est pour la paix, pour la promenade sur la plaine, pour la navigation à nos calmes, loin des mondanités bruteuses de l'originalité, à tout prix. Quelque part, au paradis, quelque part, en terre inconnue. Quelque part, c'est le meilleur début d'une phrase. Quelque part. Quelque part, c'est partout. Quelque part, c'est notre lieu commun incarné. Quelque part, notre parc, notre slogan. C'est un parc sécurisant, rassurant. Imaginez-vous vous abandonner en toute jouissance dans tout ce que vous connaissez. Relecture, révisitation, reprise, remakes, reconstitution, reproduction, répétition, réitération, ritournelle, redite, réplique, une symphonie, un Ré majeur, rétablissant l'idyllique état d'un recommencement éternel, toujours les mêmes choses, les simples choses, les choses qu'on connaît, les choses qu'on aime. Puisqu'on connaît beaucoup trop de choses, à quoi bon en chercher de nouvelles? Au parc du lieu commun, vous ne verrez, n'entendrez, ne sentirez, ne goûterez rien que vous ne pourrez reconnaître. On vous murmurera à l'oreille plein de belles choses, toutes de bon sens que vous avez déjà entendues mille fois. Vous ne vous tromperez jamais. Vous serez toujours dans le juste, la réponse toute faite, les saveurs d'antan, l'entourage confortable, les calmes et la volupté de votre sagesse acquise. Vous êtes repu de culture, ne cherchez plus, savourez ce qui est en vous. Les autres feront de même, tout le monde partagera la joie de la connivence de leur seul richissime savoir. Pourquoi se borner à découvrir, à se lancer dans l'incongruité de l'imprévu et de la chose ignorée? Laissez ça aux ignorants. Dans notre parc du lieu commun, vous pourrez déguster les miels de votre immense vécu, amortir les temps déjà dépensés dans vos lectures, études, expériences personnelles. Vous remémorez vos faits les plus importants, vous s'enivrez en rassasiant vos intuitions avérées. Vos certitudes seront votre guide, vous ne vous perdrez jamais. Vous n'aurez plus à vous inquiéter du futur. Venez vivre pleinement votre immense bagage existentiel, sans vous occuper de ces lucubrations vaines de ceux qui prétendent qu'il existe quelque chose de nouveau dans ce monde. Pour ce phénoménal parc du lieu commun, vous pourrez exceptionnellement, une fois n'est pas coutume, assister et participer aux animations suivantes. Lavage de cerveau et des mains. Expérience freudienne pour des vieux couples. Les vieux couples sont invités à rentrer dans un lavabo géant où Roméo et Juliette croient pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche. Avec grand plaisir, vous revivrez toutes vos misères, mais aussi, pourquoi pas, s'il a lieu, vos joyeuses retrouvailles. C'est net mis en scène par l'hygiéniste Poncif Pilatos.
Il faut être en maillot de bain, quoi. Il faut arriver avec un maillot de bain pour
vous
visiter
tout,
le parc.
Le maillot
oui.
de bain, une serviette.
On donne tout, oui, oui.
Tous les chemins mènent à Rome, donc, dans la même veine, pas de veine, il n'y a pas de fumée sans feu. L'incendie de Rome par Néron, un jeu éducatif avec des clichés arrivés directement des États-Unis d'Amérique. On vous fournira des bûches allumées et vous ferez ce que la majorité vous impose. Ce jeu a été fait et refait depuis la nuit des temps et ça marche du tonnerre. L'important, c'est de participer. Demandez les programmes à Ricard Adotage, avenue du Mars en Carême, Paris 75-0, 0 est un chiffre rond. Les parcs du lieu commun vous attendent pour faire de la pluie et du bon vent. Revenons à nos moutons, ne posez pas un lapin à votre destin, qui même me suivent tous ensemble, les parcs du lieu commun ou rien. Pour les lieux où il se déroulera ces parcs du lieu commun, on a demandé auprès de la mairie du 12e arrondissement pour les bois de Vincennes, à la mairie du Boulogne pour les bois de Boulogne, mais pour les lieux communs idéaux, on a démarché auprès de la mairie de Cellarbre, pour Cellarbre qui cache la forêt.
Bon, c'est intéressant, c'est un peu vague quand même. On a l'impression qu'on doit pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut dans le parc du lieu commun.
Non, mais non, mais non, mais non.
Non.
Tout ce qu'on connaît.
Mais non, parce que la règle, c'est rien d'original. Vous êtes refoulé.
Oui,
refoulé,
oui
si vous
donc
êtes
il faut
original.
Mettre tout ce qu'on veut.
C'est tout ce qu'on
mettre
connaît.
Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on connaît, tout ce qui existe. On peut même mettre les calembours de Patrice Delbourg, si, qui pourtant s'en est débarrassé
celle
en public.
Celle qu'on connaît très bien, celle qu'on connaît très bien.
Oui, absolument.
Espagnole.
Vous avez un point de vue, Jacques Vallée, sur ce parc?
Mais je vais réfléchir, parce que c'est déjà assez complexe, il faut démêler déjà un peu.
Exactement, il faut démêler les voies d'accès. Alors, figurez-vous tous, amis qui êtes là, que le parc du lieu commun a vu le jour.
Oui, oui.
Oh, il a fallu un certain nombre d'années pour recueillir l'argent pour le créer, mais c'est fait. Et on a avec nous Jacques Vallée, et vous êtes un visiteur du parc.
Je suis un visiteur.
Alors, enchanté.
Oui, plutôt enthousiaste, vous allez voir.
Ah bon, vous n'avez pas la voix de quelqu'un de très enthousiaste.
Vous allez voir, je suis un petit employé de bureau, je m'appelle Marcel.
Salut Marcel.
Et je vis seul dans une petite chambre sous les toits.
Oh, mais comme c'est poétique.
Et dans ma vie, il ne se passe rien.
D'accord.
Et chaque jour, c'est la même chose. Oui. Je vais à mon bureau où je suis préposé aux photocopies. Je fais toujours le même geste.
Oui.
À midi, je mange un sandwich. Et le soir, je me fais à manger sur mon petit réchaud à gaz.
Oui.
Du riz avec une tranche de jambon, c'est bon.
Du blanc, hein.
Je ne sors jamais, les bruits de la ville me font peur. Aussi... C'est le calme et la sécurité vantés dans une publicité du parc du lieu commun qui m'a attiré. Je me suis dit, voilà pour moi une excursion rêvée qui occupera mon dimanche.
Mais c'était une bonne idée, oui. Ouais.
Une annexe du parc était signalée dans le bois de Vincennes. Alors quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Je me suis tout de suite senti à l'aise. Simplement des chaises. J'étais pressé de m'asseoir. Il n'y avait rien à faire qu'attendre, alors j'ai attendu.
Ah bon ? On vous a donné une petite tranche de jambon et du riz, non ?
Il ne s'est rien passé, ça me convenait. Un peu plus loin, il y avait des panneaux indiquant des animations, mais ça ne m'intéressait pas.
Ah bon ?
J'étais bien sur ma chaise, et puis je redoutais qu'il m'arrive quelque chose si je m'engageais trop dans le parc. Un souffle d'air me fait peur, vous savez. J'ai attendu toute la journée, et vers le soir, je me suis dit... qu'il était temps de rentrer chez moi.
Ah ben oui, après une grosse journée comme ça.
Je suis tombé sur un coin du parc. Il y avait un grand chapeau de forme retournée, rempli de pièces. J'ai pensé que c'était pour me récompenser d'être venu. Alors je me suis servi.
Ah bon ?
Oui, oula. Mais demain, je pourrais avec ça me payer un repas à la cantine. C'est vrai que c'est un parc formidable. Ça m'a laissé l'esprit vide. Je n'ai rien vu.
Mais ça vous fait rigoler. Ça vous a rendu joyeux quand même.
Je n'ai rien vu, rien senti. Je n'ai rien appris. Et ma vie a repris comme si je n'avais pas quitté ma chambre. Joyeux dimanche.
Ah, mais...
C'est merveilleux. C'est l'atmosphère des romans d'Emmanuel Bov.
Exactement, oui. C'est autant à se flinguer que ça, effectivement.
Il y avait aussi un
Mes amis.
Mes amis. Et il y avait un livre formidable de Jean de la Ville de Miremont, Les Dimanches de Jean Désert.
Oui.
Et c'est complètement ça.
Ah bon.
Et puis Marcel, vous pourriez vous inscrire parmi les banalistes. Vous savez
oui.
ce que
ah,
c'est.
Oui,
les
bien sûr.
Banalistes et vous attendez des trains sur les quais du Gard.
Oui,
un autre dimanche.
Non, mais parce que finalement, cet abus de non-action, ça devient palpitant.
Oui.
Parce qu'un jour, il vous arrivera quelque chose, quand même.
Oui, mais ça, j'ai peur, je redoute déjà. Je fais des cauchemars.
Alors, apparemment, vous n'avez croisé personne, même pas Patrice Delbourg, qui bosse au parc du lieu commun.
Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un grand mot.
Il n'y a pas grand-chose à faire. Bah, vous avez,
Je suis tout seul, hein, je suis le seul employé.
Ah bon, vous avez été engagé, donc
ah
vous
mais
avez...
je me suis précipité quand j'ai vu la petite annonce.
C'est un CDI ou c'est un petit CDD ?
Je vais essayer d'y aller jusqu'au jour de ma retraite, peut-être.
Donc,
mais ne le répétez pas.
Ouais, ouais.
Je m'appelle Franck.
Oui.
Je travaille sur le boulevard de Clichy. La convention, la platitude, c'est mon lot de tous les jours. Le parc du lieu commun, voilà ma réserve depuis plus de 4 ans maintenant. Quand j'ai vu la petite annonce, dans le journal, je me suis précipité. Un emploi aux pommes pour mes zig. Le souverain poncif, c'est mon truc, ça. La banalité, ma mère s'y entendait. La platitude, ma femme y excelle. Je serai pas dépaysé. Ma famille a toujours radoté son fagot de vieille lune. Toute ma vie, depuis mon premier landau, s'apparente à une succession de truismes. Truisme de Suez, truisme de Panama. Une interminable partie de triviales poursuites. Je passe mes journées à surveiller des clichés. C'est mon job.
Ah.
C'est ma limite. C'est mon Amérique à moi. C'est pas trouver un temps des pieds et un recommencement éternel, vous savez. Je surveille les discours redondants. Par exemple, le discours du politique qui promet la lune. Du mari qui ment à sa femme pour cacher une liaison avec une écolière. Le cycliste qui essaiera de faire mieux la prochaine fois. Le médecin qui veut vous cacher que la fin est proche. Le restaurateur qui jure qu'il n'a pas de micro-ondes dans sa cuisine. Je suis gardien de la parole redondante, Tartuffe. Boulevard de Clichy. Quelle planque. Je vais essayer de dérouler cette sinécure en pente douce jusqu'à l'âge de ma retraite. De temps à autre, on m'apporte une nouveauté que je collige. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair. Allô, quoi, sans transition. Moi, personnellement, c'est les stéréotypes du PAF. Je les surveille aussi, je les mets en boîte, je les mets en pile. Il faut que j'aie à l'œil les truismes de la syntaxe, les bateaux du glossaire. À force d'emprunter chaque jour des sentiers battus, j'ai creusé un chemin de ronde circulaire autour de moi, où je m'engloutis jusqu'à l'épaule. Oui. Je travaille boulevard de clichés, je consigne les platitudes, je chaperonne les palissades, je préside les évidences, j'espionne les rengaines. Il me reste encore 24 ans à tirer, soit 288 mois, soit 8640 jours, ce qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant. Ah, pardon, ça me contamine.
Dites-moi, Ricardo Mosner, vous le connaissez, Franck, c'est vous qui l'avez embauché, oui, ou vous êtes passé par un intérim?
C'est un très bon candidat, il est tout à fait raccord avec les parcs, donc...
Oui, donc vous allez le garder jusqu'au bout.
Ah bah oui, c'est sûr.
Mais il sera peut-être l'employé du mois, quand même.
Ah oui, bah bien sûr.
Il a ses chances.
Il est depuis toujours.
D'accord.
J'ai pas beaucoup de concurrence.
Combien de mois déjà?
Là, 200. Il me reste, oui, 4 ans. J'ai tiré 4 ans, il m'en reste 24.
Continuez.
Puisque vous me le dites, chef. Le plaisir est dans la répétition.
Exact.
Et dans le rituel, oui, c'est ça. Oui. On n'aimerait pas vivre avec vous, quand même.
Mais je ne le demande à personne.
J'aime quand tu te réveilles la nuit pour me chanter des idioties comme oh Rasputin, oh Marilyn, oh Monsieur Plume. Faites-moi monter sur la lune. Faites-moi visiter Saturne, car je suis con comme la lune. Con comme la lune, oui, oui, oui. Con comme la lune. Con comme la lune. Invoque des esprits informels comme oh Mao Tse-tung, oh cruel King Kong, oh révérend Moon. Faites-moi perdre mon amertume, faites-moi embrasser une jolie brune, car je suis con comme la lune. Con comme la lune, ouais, ouais, ouais. Con comme la lune, nous sommes tous con comme la lune. Ok.
Yeah. Arthur H, con comme la lune.
Les papous, c'est aussi dans ma tête, et sur France Culture.
Et c'est le moment, Jeanne, de jouer avec l'écriture. Si l'on mélangeait deux contraintes pour écrire une histoire. La première, celle des gonfleurs de texte pour les deux premiers joueurs en piste, Jacques Jouet et Eva Almassy. Et cette contrainte consistera à nourrir un texte, mais de l'intérieur, à le gonfler, mais en respectant ses limites, à savoir premier et dernier mot. Et la seconde contrainte, pour Patrice Caumont, plus classique, lui permettra de boucler l'histoire en poursuivant tout simplement le texte d'Eva dans le sens qui lui est proposé. C'est donc parti avec vous, Jacques Jouet. Une phrase vous est arrivée, à vous de la nourrir en information nouvelle pour l'attirer vers une idée de roman qui serait, je suppose, un roman à la Jouet, parce que vous mettez toujours votre marque sur ce que vous attrapez, non?
C'est pas faux, oui.
Ah, je m'en doutais. Mais derrière vous, il y avait Eva Almassy et Patrice Caumont. Ont-ils été un peu perdus dans l'univers de Jacques Jouet ou pas?
J'étais complètement perdue.
Ah bon?
Vraiment.
Et vous, Patrice Caumont? D'accord.
Donc pour ma part, j'en ai fait une histoire fantastique.
Parce alors que... on va
voilà.
voir.
Bah voilà.
On va déjà voir. On va déjà écouter la phrase que je vous ai donnée.
Bah oui. Il lui remit la tête sous le robinet, referma la porte de la cuisine à clé et attendit l'arrivée de l'ESAMA, bien que cet imbécile aurait pu se rendormir.
Voilà, c'est une phrase de qui? Vous pensez quel genre d'univers? Oui, d'accord. Quelqu'un a une idée, personne? Il y a un peu de fantastique, il y a un univers un peu brinzing, non? C'est du copie. Redites-nous là.
Il lui remit la tête sous le robinet, referma la porte de la cuisine à clé et attendit l'arrivée de l'Ezama, bien que cet imbécile aurait pu se rendormir.
Voilà, donc vous avez fait du jouet, vous venez de nous le dire, mais avec une envie de faire quoi? Un polar? Un livre fantastique?
Un livre tout à fait réaliste, mais dans un univers qui est celui des marionnettes.
Ah ça, j'aurais jamais deviné que c'était des marionnettes.
Vous n'avez pas fait une note en bas de page, Jacques Jouet.
C'est parfaitement clair.
J'ai pris tout au pied de la lettre.
Alors, on vous écoute.
Il lui remit calmement la tête en place, passa les yeux sous le robinet, referma la calotte crânienne et installa la fausse porte. La voix de Roland, furieux, montait de la cuisine. « Mon cœur est fermé, fermé à clé !» Maître Pierre frappa les trois coups et attendit l'arrivée de l'Ezama. Il avait encore confiance dans le talent de son montreur, bien que cet imbécile avec ses sucettes au pavot aurait pu se rendormir.
Ah oui, effectivement, il y a... Bon,
c'est très... On prépare une représentation de Marie... Enfin, c'est pas compliqué.
C'est très jouet, quand même.
C'est le Roland Furieux qui se joue en Sicile.
Ouais. Par exemple.
Oui, mais avec montreur, je pense à montreur d'ours, mais ça, je ne voulais pas aller au cirque. Donc, je suis allée sur un cours.
Et Maître Pierre est le marionnettiste de Don Quichotte.
Oui, mais alors, il faut une bonne base culturelle.
Des notes de bas de page.
Oui,
Non, mais tu aurais dû mettre le niafron dans ton texte.
Oui, voilà.
Ça aurait servi.
Ouais. Ça sera un niafron.
Cela dit, que ce soit des marionnettes ou pas. Peu importe, Eval, mais si votre mission consiste à gonfler de l'intérieur avec votre propre projet romanesque.
Oui, mais du coup, devient un projet un peu de science-fiction, fantastique, mais assez glauque.
Oui,
assez
ça, il ne s'agit plus de remettre sa calotte crânienne.
Mais si Roland Furieux est joué par un ours, moi, j'ai rien contre.
Non, j'ai sorti l'ours de l'histoire.
Alors.
Il lui remit calmement les planches d'anatomie du professeur Cuvier, photocopiées au muséum. La tête en place, il passa les yeux sous le robinet, referma la calotte crânienne et installa la puce sous le cuir chevelu, non sans pousser au préalable la fausse porte. La voix de celui qu'il préparait pour Roland-Garros, furieux contre lui, montait de la cuisine. « Mon cœur est fermé, fermé à clé. Quel coup de maître à la Pierre Barthès !» Il me fallait un...
Note en bas de page, joueur de tennis des années, vous diriez 70, Lucas
70, Fournier. Qui s'illustra dans la publicité pour une marque de thé également.
Ah, j'ai pas mis le thé, non.
Oui. Non, mais c'était surtout... Il jouait à l'époque de Pierre Darmon aussi, non?
Il jouait après Pierre Darmon.
Après Pierre Darmon.
Oui. Bon, c'est entre Pierre Darmon et Patrick Proisy.
Voilà. Non, mais c'est une note en bas de page qui est nécessaire.
Et il y a un autre Pierre. Bon, oui. Donc, moi, c'est quel coup de maître à la Pierre Barthès. Il frappa les trois coups pour initier la puce et attendit l'arrivée de l'Ezama. Il avait encore confiance dans le talent de son entraîneur montreur, bien que cet imbécile, toujours fourré avec les joueuses de l'Est qui lui fournissaient ses sucettes au pavot, aurait pu se coucher sur ses lauriers et se rendormir.
Ah, c'est bien, on est dans le monde du sport, de la science-fiction un petit peu.
Oui, parce qu'on les fait jouer à travers des puces. Donc, c'est vraiment un roman d'anticipation quand même.
Hein. Oui. On ne peut pas dire que les joueurs de tennis actuels jouent avec cette méthode. Ou alors, on ne le sait pas. Non, sûrement pas Federer.
C'est
donc,
des punaises.
Patrice, comment vous étiez bien servi?
Oui.
Il y avait une bonne situation. Et donc, vous, votre mission, c'était de poursuivre ce roman. Redites-nous la dernière phrase, Eva.
Cet imbécile, toujours fourré avec les joueuses de l'Est, qui lui fournissait ses sucettes au pavot, aurait pu se coucher sur ses lauriers et se rendormir.
Et donc ?
Et donc, le pavot et ses dérivés ne sont pas excellents pour les robots.
Ah bon, électronique. Oui. Donc, bon, c'est pour personne.
Mais le pire que tout pour les robots, c'est l'humidité. Pour l'électronique, c'est redoutable. L'orage, qui tournait sur Saint-Cloud, s'abattit sur la terre battue. On bâcha. La fête était gâchée. Le problème avec les puces, qu'elles soient insectes ou électroniques, c'est qu'elle saute. La pluie dérégla le système. Il se mit à frapper de sa raquette. D'abord les joueuses de l'Est, puis l'entraîneur, puis les ramasseurs de balles. À coups de smash et de revers, il abattit aussi les trois premiers rangs des tribunes. C'était un carnage, c'était Pavie, c'était Waterloo, c'était Reichshoffen. Dans sa tête, l'ordinateur comptait. D'abord les joueuses de l'Est. Anastasia, Anna, Augusta, Alexia, Anouchka et 10 autres. Et une voix de synthèse intérieure lui annonça 15A. Il se précipita sur les ramasseurs de balles. Alain, Annie, Albert, Altur, Anémone et 25 autres. La voix annonça 30A. Puis dans les loges, Monsieur Arnaud, Madame Avisseau, Monsieur Aslan, Madame Audibert, etc. La voix annonça 40A. Au moment où la sécurité le ceintura, la puce disait « Reset, 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 no play, reset
ah, ». C'est magnifique et ça porte un titre, évidemment.
Ça porte un titre, ça s'appelle « La beauté des nuages ».
Ah bon ?
c'est pour essayer de me raccrocher au...
Ah ben c'est réussi.
Alors,
à l'univers de Jacques Jouet ?
Ah non, moi je me désolidarise complètement de ce qui vient après. Hein,
moi j'aimerais bien rappeler la phrase de départ quand même. Il lui remit la tête sous le robinet, referma la porte de la cuisine à clé et attendit l'arrivée de Lesama, bien que cet imbécile aurait pu se rendormir. Bravo, vous voyez que l'univers de Jacques Jouet, même si vous n'y comprenez rien, Eva et Patrice Comont, bah finalement vous avez su vous y glisser. Ah.
De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages, jeu du midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit de 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Route des vacances, qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7. Chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux, National 7.
National 7 par Sanseverino. Vous écoutez Les Papous dans la tête, la récré ludique de France Culture. Au micro, Françoise Tressard. À suivre jusqu'à 13h58, des mots nouveaux pour le dire, une page de pub et le jeu des bouts rimés pour Jacques Vallée et Jean-Bernard Pouy avec la critique de Lucas Fournier. Des mots nouveaux pour le dire, donc des mots qui sonnent bien français, parce que c'est notre langue, comme bajalidulé. Mais des mots qui permettent de dire beaucoup de choses en raccourci. Donc, économie de mots, mais inventivité maximum. Tenez, un exemple pris dans notre Dico des Papous dans la tête, paru chez Gallimard, le verbe rapoufir, avec deux P. Alors, c'est un peu inquiétant à l'oreille. Et à juste titre, puisqu'il signifie faire partie d'un voyage organisé dans un pays pittoresque, et rater l'autocar du retour de l'excursion parce qu'on était aux toilettes. Et oui, ça arrive. Un verbe était nécessaire pour le dire. Et ce verbe rapoufir, c'est une trouvaille de Dominique Muller. Alors aujourd'hui, c'est Eva Almassy qui a inventé six mots nouveaux qui seront proposés pour la traduction à Jean-Bernard Puy. Eva, vous avez plutôt imaginé des verbes ou des substantifs ?
Bah, moitié-moitié.
Oui.
Ce qui donne un verbe du premier groupe qui est l'allomé.
Le premier groupe, c'est toujours plus joli à l'oreille, hein, en français.
Oui.
Plus joyeux même.
Bah alors, prenons tout de suite celui qui est le deuxième. Prenons tout de suite après pleurer, pour comparer
oui.
Un du deuxième groupe, un transitif en plus, et qui est le verbe subrutir. Hein, c'est plus désagréable.
Oui,
alors,
c'est vrai.
Cela étant dit, j'en ai encore un du premier groupe et qui est crépaté.
Crépaté, bah oui, c'est joyeux.
Alors,
crépate.
Passons au substantif. Mm-hmm. J'ai un nicicina non masculin.
Oui.
Après, j'ai un patal des pataux non masculin.
Oui.
Et puis enfin, j'ai un nom féminin, une déluga, pluriel des délugas, tout simplement.
Oui, pluriel régulier, quoi.
Absolument.
Alors, une fois que vous avez imaginé vos mots, vous vous êtes dit, tiens, je vais les faire vivre dans une histoire.
Parce que sinon, les pauvres mots, qu'est-ce qu'ils feraient là tout seuls, inventés pour rien.
C'est la première fois de leur vie qu'ils vont servir.
Laissez pour compte.
Donc, c'est très émouvant.
Ma psy m'a recommandé de surtout rester dans mon environnement habituel et d'y faire un nicicina mémorable. Rien de tel, disait-elle, inutile de l'allommer. Par esprit de contradiction, je me suis dit, si j'allais un peu dans les bois pour voir si ce nigaud de loup n'y est toujours pas. Je m'avise un patal parfait, mais c'est là que je commence à subrutir sérieux. J'ouvre les yeux, voilà la déluga. Courage, fuyons, vite, vite, crépaton avant qu'il ne soit trop tard.
C'est au bout de combien de séances?
Oui, c'est ça, c'est une bonne question. Il y avait de l'espoir au milieu, puis la fin est quand même dans l'urgence.
Voilà, ça fait des années, j'ai payé déjà un appartement en psychanalyse.
On paye d'avance chez le psy?
Mais non, mais on y va des années et des années.
Vous avez bien travaillé sur la traduction des mots et de l'histoire d'Eva Almassy.
Oui.
Parce qu'elle est souvent mystérieuse, Eva.
Pas tellement, en fait, quand on la connaît.
Non, ah bon ? Vous l'avez bien décodé dans le texte.
Tu prends deux chapitres de Freud et c'est bon, tu connais Eva.
Alors, vous voulez bien nous traduire, enfin, nous donner une idée de ce que vous pensez de ces mots.
Voilà, oui,
nous
en fait, c'est très, très, très simple. Parce que je me suis dit qu'il faut que ça ressemble un peu au hongrois, d'une certaine manière. Donc, comme je parle parfaitement le hongrois, ça m'a donné tout de suite des pistes simples.
Ouais.
Par exemple, un nicicina, il ne faut pas chercher du côté d'assassinat ou n'importe quoi. Non. Un nicicina, c'est une réapparition grandiloquente. Avec la musique. Bon, comme tout le monde peut faire, ou comme Laura peut faire dans le film, par exemple.
De Preminger. Ah oui, d'accord.
Elle n'est pas grandiloquente, mais
Non,
elle fait ça, c'est dans d'autres films. Ça, c'est dans les remakes.
Eva Almassy ou pas?
Dans la mesure où il y a un verbe qui est exactement le contraire dans ma définition.
On est loin.
On n'est pas si loin.
Bon, après.
L'allomé.
Oui.
Alors, c'est un peu vulgaire, quand même.
Oh, enfin,
non,
pas,
pas vulgaire, populaire. Quoi.
Oui.
C'est faire du boudin. Faire du boudin comme une adolescente attardée.
Ah, enfin, boudée.
Là, comme ça, la tête penchée, l'acné sur la feuille, tout ça. Enfin bon, faire du boudin.
L'acné sur la feuille.
Sur la feuille, c'est...
Ça, c'est très fort. Alors là, je ne sais pas comment on arrive à faire une chose pareille.
Après, il y a un patal.
Oui.
Alors, un patal, ça vient de l'argot des orchestres symphoniques.
Le patal, c'est le premier hautbois. On l'appelle le patal.
Ah bon?
Pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait le premier hautbois de l'orchestre de Von Karajan, s'appelait Agostino Patal, et ça vient de là.
Ah bon, ça vient de lui.
Je pense que c'est ça. Bon, j'en suis pas sûr.
Ça ne peut pas se mettre au pluriel, là, non?
Des patous?
Il ne peut pas y avoir des patous.
Mais si, parce qu'ils sont deux, au moins, les joueurs de hautbois dans les orchestres.
Ah bon?
Vous dites que c'est le premier.
Oui, mais théoriquement, c'est le premier, mais c'est un oboïste, quoi, dans un orchestre symphonique.
D'accord. Bah alors là, par contre, pour ce qui est du matériau, oui, ça c'est parfait.
Ça, oui, parce que et si j'allais voir un peu dans les bois, ça veut dire, oui, j'allais voir dans les, ceux qui jouent du
hautbois,
la clarinette.
Les sous-bois, oui. Des sous-bois au hautbois.
Alors le patal, après il y a suprutir. Suprutir, c'est très fin. C'est sentir les picotements annonciateurs d'une crise de jalousie.
Ah. Ça ressemble beaucoup aussi. Ah bon? Et on les sent au bout des doigts?
Non, c'est général. La baffe commence à couler.
Vous bavez quand vous êtes jaloux.
L'acné a tombé sur la feuille.
Les poils des oreilles se hérissent.
Elle va être épouvantable, votre histoire.
Je n'ai jamais été jaloux. Alors, je suis obligé d'imaginer. Alors, après, il y a Deluga. La Deluga. Alors, la Deluga, on revient à l'orchestre. C'est la chef d'orchestre féminin, que tout le monde appelle la Deluga. Je ne sais pas pourquoi. Je pense quand même que c'est une allusion à Beluga.
Le caviar.
Qui est une grosse baleine. Non, le Beluga, c'est une baleine. Oui, mais... Effectivement, il y a aussi du caviar Beluga. Mais directement, Beluga, c'est une sorte de baleine.
D'accord.
Entre l'orque et la baleine.
D'accord. Oui, pourquoi pas. Et donc, il serait plein d'acné et tout.
C'est l'orchestre et la baleine, oui.
Ouais.
Et crépater, c'est revenir dans sa loge d'artiste pour pleurer, s'écrouler... Et faire un scandale, quoi.
Ah, après le concert.
Oui, la calasse crépatait tout le temps.
Ah bon?
Ah, il y avait un anti-crépateur qui allait la chercher pour la ramener, parce que bon, à chaque fois, c'était un drame.
Oh, mais apparemment, les gens qui crépatent ont beaucoup de talent.
Bah, il vaut mieux, parce que sinon, ils sont virés. Au premier crépatage, dehors.
Alors, ben, lisez-nous la traduction que vous avez faite d'Eva Almassi.
Et j'appelle ça Diva en détresse.
Mmh. Oui.
Ma psy m'a recommandé de surtout rester dans mon environnement habituel et d'y faire une réapparition grandiloquente et mémorable. Rien de tel, disait-elle, inutile de faire du boudin comme une adolescente attardée. Par esprit de contradiction, je me suis dit, si j'allais un peu dans les bois pour voir si ce nigaud de loup n'y est toujours pas, je m'avise à un oboïste, parfait. Mais c'est là que je commence à, sérieux, sentir les picotements d'une jalousie irrépressible. J'ouvre les yeux, voilà la chef d'orchestre. Courage, Fillon, vite, vite, revenons dans ma loge avant qu'il ne soit trop tard.
Ça se tient, hein. C'est très, très...
C'est simple.
C'est une histoire simple, mais voilà, dans laquelle il y a quand même du drame,
simple,
de l'angoisse,
moderne,
de l'urgence.
Pleine d'émotions quand même,
oui,
de devenir.
Non, mais Jacques a la larme à l'œil, il est touchant.
Écoutez, oui, je suis en train de chercher mes mouchoirs.
Donc, Eva Almassi... Maintenant qu'on a l'histoire, est-ce qu'on est plus proche de votre histoire ou pas?
L'histoire est exactement la même, seule diffère un peu les décors et les nuances.
Oui, alors, vos mots.
La Lomé, pour moi, c'est partir très loin pour, en fin de compte, trouver ce que l'on cherchait tout près de soi à l'issue de son odyssée, selon la formule qui fait le succès des romans de Paolo Coelho, à commencer par L'alchimiste. Donc, il faut faire le tour du monde et puis finalement, ça se trouve dans son foyer. Chez le voisin, exactement. Nisisina, c'est un exercice qui consiste à se fondre dans la couleur locale. Donc, au lieu de faire bababam, on se fond plutôt dans la couleur locale, se sentir parfaitement là où l'on est, où qu'on soit. C'est-à-dire se faire tout petit, mais quand même respirer. Mmh. Alors, un patal, des patos, c'est un tronc d'arbre abattu par la tempête de 99 et qui sert de banc pour se reposer au milieu de la forêt.
Ah, ben on n'était pas loin avec le hautbois. Ah oui, il y avait le bois. Hein.
Ça, c'est la même
chose. Moi, je me souviens que sur les bois de la tempête de 89. C'est beaucoup plus important.
Et il y en a eu aussi en 2009, je crois. Suprutir, entendre un bruit qui fait naître dans votre tête tout un roman gothique instantané et vous foutre une frousse dont vous vous souviendrez.
Ah oui, toujours Suprutir. On sentait bien qu'il y avait une belle gravité dans Suprutir.
Oui, c'était pas tactile comme chez vous. Chez moi, c'est sonore, mais le résultat est exactement le même. Une déluga, c'est l'ex-femme de votre mari que vous aimeriez détester de tout cœur, mais qui est vraiment trop gentille, d'autant qu'elle voudrait vous emprunter 1000 euros sur le champ.
Ah oui, évidemment.
Ouais, ça fait tout bien.
Oui, donc rien à voir avec la chef d'orchestre. Elle peut être l'ex de votre mari.
C'était
exactement
une sorte de diva ou de chef d'orchestre.
Le chef d'orchestre, c'est à elle qu'on emprunte 1000 euros.
Alors, on n'a qu'à crépater, c'est-à-dire changer rapidement de trottoir dans un endroit où il n'y a ni chaussée ni trottoir. Il faut quand même savoir esquiver.
Ouais. On aimerait bien écouter son histoire. Hein?
Alors, le titre, c'est « Drame, Dream et Trauma ». Ma psy m'a recommandé de surtout rester dans mon environnement habituel et d'y faire un exercice mémorable qui consiste à se fondre dans la couleur locale, se sentir parfaitement là où l'on est, où qu'on soit. Rien de tel, disait-elle, inutile de partir très loin pour en fin de compte trouver ce que l'on cherchait tout près de soi à l'issue de son odyssée, selon la formule qui fait le succès des romans de Paolo Coelho, à commencer par l'alchimiste. Par esprit de contradiction, je me suis dit, si j'allais un peu dans les bois pour voir si ce négo de loup n'y est toujours pas, je m'avise un tronc d'arbre abattu par la tempête de 99 qui sert de banc pour se reposer au milieu de la forêt. Parfait. Mais c'est là que je commence à entendre sérieux un bruit qui fait naître dans ma tête tout un roman gothique instantané. Me fout une frousse dont je me souviendrai. J'ouvre les yeux. Voilà l'ex-femme de mon mari que j'aimerais détester de tout cœur, mais qui est vraiment trop gentille, d'autant qu'elle voudrait m'emprunter 1000 euros sur le champ. Courage, fuyons, vite, vite, changeons de trottoir avant qu'il ne soit trop tard. Sauf que dans une forêt, il n'y a ni chaussée, ni trottoir.
Oui, donc à mon avis, il faut reprendre 10 ans de psychanalyse.
Mais finalement, une deuxième maison.
Oui, oui, mais 1000 euros, ce ne serait pas trop cher payé finalement.
Une séance.
Non, pour éviter la suite.
Il y a une belle phrase, hein.
Oui.
Changeons de trop tard parce qu'il n'y a plus de trottoir. Changeons de trottoir car il est trop tard.
Oui,
un trottoir trop tard, c'est très beau.
C'est l'inconscient qui parle.
Et oui, tout va bien, Eva, tout va bien. Et moi, je vous offre quelque chose qui est gratuit. Une page de pub, mais une pub façon papou, autrement dit, publi-papou-cité, sur le métro, proposée par Jeanne Carillon avec Hervé Le Tellier.
Au beau métro, vibrant de toutes tes rames, tu sais si bien comment il faut me charmer. Dans tes wagons rutilants où je me pâme, et cependant tu es trop souvent bondé. Quand tu débloques et que tu me fais attendre, comme une amante dont le cœur serait épris, je veux te pendre au fil de tes liaisons englouties. Tu aimes mon beau métro.
Beau métro.
Mon joli métro.
Ni métro.
Tu me fais tourner la tête, battre la chamade.
La chamade.
Au son des saccades.
Des saccades.
Qui agitent tes banquettes. Tu me fais bouquiner.
Bouquiner.
Écrire, poéter.
Poéter.
Oh, j'ai des rêves plein la tête. Tu sais bien m'absorber, m'engloutir et m'engouffrer. Un ticket, aller rouler. T'es un lefto qui accompagne le boulot. T'es un couche-tard qui accompagne les fêtards. La nuit tombée, j'aime te prendre en solitaire. Tel cendrillon en carrosse, je veux rentrer. Mais à une heure, la citrouille autoritaire pointe son nez devant ta bouche fermée. C'est la galère, y a plus qu'à rentrer seul et à pied. Moi, je veux mon beau métro.
Beau métro.
La nuit in extenso.
Extenso.
Pour composer des poèmes. Hommage à Queneau.
Queneau.
Jacques Jouet, Cortazar.
Tazar.
Le maître, ça creuse la tête. Prenez le métro.
Le métro.
Avec un stylo.
Un stylo.
Oh, vous verrez comme c'est chouette. Que c'est bon de prendre le métro. D'écrire un oratorio. Le métro, ça fait chanter. Yeah! Oh, 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 que c'est bon le métro. Le métro d'Orlotte, le tempo des mots. Oh, yeah.
Ils sont raccord tous les deux. Dernière séquence de ce numéro du Papou dans la tête, le jeu des bouts rimés. C'est un jeu auquel on jouait déjà à la cour de Louis XIV, dit-on. Il s'agissait de lancer des rimes à un poète et ensuite à lui d'écrire des vers sous les rats admiratifs des courtisans. Je ne sais pas trop si à l'époque on disait déjà bravo, à vérifier. Nos poètes papous du jour, Jacques Vallée, Jean-Bernard Puy. Les papous présents pour ce jeu ont tous mis des mots rimant entre deux à deux dans un chapeau pour le tirage au sort. Rime classique ou moderne avec parfois une rime masculine accompagnant une féminine, mais bon... Toutes les rimes sont dans la nature. Jacques Vallée et Jean-Bernard Puy ont aussi mis des mots. Ils peuvent accepter les leurs s'ils sortent du chapeau ou pas. Libre à eux d'en refuser trois, quel qu'en soit l'auteur, à condition bien sûr d'être d'accord sur leur refus. Ils ont même le droit de se disputer, n'est-ce pas Jean-Bernard Puy?
Même s'il n'est pas d'accord, si c'est un truc que je refuse, c'est un refus. Tu es d'accord?
C'est toi qui as la priorité. Alors,
ils sont mignons tous les deux. Alors...
Un beau couple de Patrice Minet.
Oui.
Économie, anémie.
Ça non, on a dit qu'on refusait les trois premiers.
Oui, voilà. Oui.
Ah bon,
oui,
alors.
On le refuse.
Bon, tant pis pour Minet.
Non, mais c'est plus marrant de les dire quand même.
Oui.
Tu as bien fait de le refuser. Oui.
Suivant, Jacques Vallée.
DM.
Dominique Muller.
Anarchiste, gaz de schiste.
Oui, non, non.
Je l'aimais bien.
C'est honteux. C'est des rimes honteuses.
Elle est parfaite. Elle est parfaite, anarchiste, gaz de
schiste. Oui, mais je vois pas pourquoi on mêle les anarchistes au gaz de schiste.
Ah ben, justement, tout le poème...
Un est positif, l'autre est totalement négatif.
Mais les mots qui rime ne sont pas forcément des synonymes, enfin.
Bah oui, sinon c'est idiot. Oui.
Est-ce qu'on peut mettre de côté les mots refusés pour,
ah, mais ils resserviront
un autre
jour.
Ça fait plaisir.
Vous le remettez dans le chapeau.
Ça veut dire que tu l'aimais bien, anarchiste.
On les remettra dans le chapeau.
Donc, troisième couple qui sera refusé, comme l'a indiqué Jean-Bernard Puy. Il est de Patrice Minet à nouveau.
Bien sûr.
Et c'est Nefertiti et Ouistiti.
Ah, mais ça aurait été beau pourtant. Il était très beau.
Deux fois, Patrice.
Ah, tu as dit non, il faudrait savoir.
Non, mais on a le droit de se tromper.
Tu changes les règles.
Est-ce que
tu
acceptes ça, Nefertiti et Ouistiti?
Il est beau.
J'en étais assez fier.
Il faut dire que c'est beau. Oui, oui.
Ouais, c'est la classe, ça. Oui,
allez, on prend. En plus, il n'a mis que deux papiers, Patrice Minet, donc on ne peut pas refuser tout.
D'ailleurs, une des règles, c'est de jamais refuser les papiers que j'ai écrits. Voilà.
Allez. Alors, nous avons notre premier couple de rimes. On passe au deuxième, Jacques Vallée.
Ça, Jean-Bernard Puy.
Oui.
Fédéraire et vipère.
Nous ne dirons rien sur la rime.
Sur la rime, bien sûr. Oh, rime très approximative.
Oh, Roger Federer, c'est une rime du masculin, suisse, hein. Jean-Bernard Puy. Quel est l'autre?
Vipère.
Vipère.
Non, mais on peut mettre un E à Federer, si vous voulez.
Mais c'est peut-être Madame Federer.
Mais moi, je serais partisan de leur refuser.
Ah, ce serait votre troisième refus.
Le troisième.
Oui. Oui, moi, je ne tiens pas à ce qu'on joue avec mon idole. Est-ce qu'on le mêle à des vipères. Donc,
maintenant, on ne peut plus
refuser. Plus de refus,
ce qui n'empêche pas qu'on peut contester les rimes, tout en les acceptant.
Ah, de Dominique Muller. Une rime parfaite, canasta et dévasta.
Ben oui, ça on peut pas dire le contraire. Canasta, c'est un jeu, c'est ça?
Oui, une carte, oui.
Dont j'ignore les règles, mais enfin c'est à eux de l'expliquer, je m'en fiche.
Allez, remuez un petit peu.
De Jean-Bernard.
De JV.
JV,
c'est vous.
Lépreux et preux.
Oh.
Ça va être joyeux, hein, mais a priori, vous n'avez plus le droit de refuser.
Ah non, d'ailleurs, oui.
Mais c'est une rime parfaite.
Non, mais ça, oui. Ça peut...
Non, c'est
quand on recherche la perfection des rimes.
C'est pas la brigade du rire, hein.
Mais on peut rire
de tous les lépreux aussi, bien sûr.
Tous les lépreux qu'on rencontre.
Oui,
de Jean-Bernard.
Ratelette et boutelette.
C'est signé
Lucas Fournier.
C'est pas ce qu'il a fait de meilleur jusqu'à présent dans la vie.
C'est très bon la raclette, alors je suis pas d'accord.
Tout dépend du texte. Voilà.
Raclette et bouclette, c'est la laine bouclette.
Ou une bouclette de cheveux.
Voilà. Alors, vous tirez encore un papier, après on passera le chapeau à Jean-Bernard Puy.
Frites et Aphrodite.
C'est qui?
Ah, c'est bien, elle est mignonne. Elle est très mignonne.
C'est JV, c'est vous?
Oui.
C'est Jean-Bernard Puy qui va continuer le tirage au sort. Vous n'avez plus le droit à des refus. Bonne chance.
Minet.
Ah. Oui.
anti-inflammatoire et rédhibitoire.
Oh là 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 là.
On a déjà 6 pieds.
Anti-inflammatoire, oui, c'est déjà un vert.
On peut plus refuser, hein. Non, non, c'est très bien. Anti-inflammatoire, ça fait déjà après.
Ça un fait 6 pieds.
Oui, un demi-alexandrin.
Voilà.
Oui. Alors, moi, vous remuez un petit peu le chapeau.
Ça y est, j'ai oui. Tarama et Panama.
Oui, c'est
Lucas bien. Fournier. Ce qui m'étonne pas de lui.
Tarama et Panama. Huitième couple de rimes.
Bibelot et Waterloo. Ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, on dirait que c'est du Jacques Jouet, ça.
C'est pour Jacques Jouet. Il l'a signé.
Bibelot et Waterloo, c'est bien.
Waterloo. Vous diriez que c'est une rime parfaite, Jacques Vallée.
Oh, que non.
Oh, non. Non. Que non, mais...
Bien élevé par Jacques Vallée, justement, et donc,
si,
non.
Elle est assez belle.
On dit Waterloo, hein. Tu
sais, bah oui, c'est ça, on ne dit pas Waterloo.
Bah, on n'a qu'à dire Bibelot.
Bibelot.
Waterloo. C'est en oui. Belgique, hein.
En Belgique, ils disent oui. Waterloo.
Ah bah oui.
Allez, neuvième. Ah, c'est drôle.
Non, mais c'est très drôle, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas de lui. Hubert et Robert.
C'est très amusant.
C'est de Lucas Fournier.
Eh bien, oui, c'est drôle.
Hubert et Robert.
Mais Hubert, non, c'est le prénom bien, ou oui. C'est le taxi ben...
Comme tu l'entends.
Ah ben, ah, après, c'est vous qui en faites oui. L'usage mais non, mais que vous souhaitez.
C'est selon l'orthographe.
Non, on est à la radio, donc oui. On fonctionne non, à l'oreille. Ah, bon. Il reste que le Berbère, c'est une rime parfaite. Mmh. Hubert, Robert, c'est bravo Lucas.
C'est encore plus parfait que la rime.
Dernier si couple.
Dominique Muller.
Oui.
Ça m'étonne pas. Nausicaa, Kinka.
Oh, c'est très mignon, ça.
Avec Nefertiti, c'est pas très difficile.
Elle est dans le genre Nefertiti, oui, c'est dit, oui, c'est vrai.
Alors moi, je relis les mots. Hein. J'ai l'impression que ça va donner un poème un peu étrange. Nefertiti, Wistiti, Canasta, Devasta, Lépreux, Preux, Raclette, Bouclette, qu'on doit à Lucas Fournier, Frite, Aphrodite, ça c'est du Jacques Vallée, anti-inflammatoire, rédhibitoire, c'est du Minet. Qui pourrait l'oublier? Tarama, Panama, Bibelot, Waterloo, Hubert, Robert, Nausicaa, K1KA. C'est pas facile. Si vous aviez ces mots, Jacques Jouet, vous partiriez dans quelle direction? Bye bye. Eh bien, à vous d'écrire des jolis poèmes, Jean-Bernard Puy, Jacques Vallée. Vous êtes content?
Oui, très très bien.
Mais là, c'est pas facile parce qu'entre Nefertiti, Nausicaa, Aphrodite, et de sortir du côté voyage organisé, c'est pas évident.
Oh, ils ont un peu le profil. Hein. JB, oui. Il a la casquette, Jacques Vallée. Il a son grand sac, ils ont leur sandwich. Bon voyage! Jacques Vallée, Jean-Bernard Pouy, vous avez donc travaillé avec ces mots qui, bon, Nefertiti, Ouistiti, il y en avait d'excellents, des mots. D'autres
ils
plus
étaient
difficiles.
Tous formidables.
Ils étaient... Rappelez-les-nous, Jean-Bernard Pouy.
Alors, il y avait Nefertiti, Ouistiti, oui. Canasta, Devasta, Lépreux, Preux, c'est une rime formidable.
Lépreux, preux, oui, ah, oui.
Raclette, bouclette.
C'est le seul mot qui rime avec lépreux.
Ah voilà, c'est pour ça que vous l'avez apporté.
Oui, ça tombe bien, oui.
Raclette. J'aurais mieux fait de ne pas l'apporter.
Bon, je peux terminer.
Oui, c'est
raclette, bouclette, frite, aphrodite, anti-inflammatoire, rédhibitoire, ouais. Tarama, Panama, Bibelot, Waterloo, Hubert, Robert, Nausicaa, Kinka.
Est-ce que vous publiez, vous publiez souvent des poèmes, Jean-Bernard Pouy, vous publiez sous votre nom, là où vous avez pris un pseudonyme?
Non, j'ai retrouvé un poème d'un certain Patrice de Châteaudun, qui est un poète un peu oublié, dans un recueil qui s'appelle lui-même « Peintres oubliés
oui. ».
C'est un poète qui s'occupe beaucoup des peintres,
oui.
Et qui a écrit un poème qui s'appelle « Inspiration ».
Ça se présente sous quelle forme?
Bon, ce sont les alexandrins, avec des rimes, je ne sais jamais comment on dit...
Embrasser.
A-B-B-A.
Ah, bébé, c'est embrassé, c'est ça, Jacques Vallée. Jacques Jouet, notre spécialiste.
Ce qui ne m'étonne pas de Patrice de Châteaudun de choisir des rimes.
Ah bon ?
Oui, oui, c'est son genre. C'était un peintre ancien qui s'appelait Hubert et qui ne voulait plus peindre des aphrodites. Or, pour garder son art et pour garder la frite, décida désormais de se nommer Robert. Mais il tomba malade, un truc rédhibitoire, et croyant se guérir, joua au canasta.
On ne dit pas au canasta, non, Jacques Jouet ?
Oh, moi, je dis à la canasta.
Oui, moi aussi. Bon. Enfin, j'y joue très peu en même temps.
Oui, mais vous écrirez à Patrice de Châteaudun, qui est mort depuis 150 ans.
Ah, oui, d'accord, pour lui signaler que c'est Dieu féminin. Bon, sûrement, oui.
Un jeu vraiment pervers qui, sur le dévasta, même gavé à fond d'anti-inflammatoires.
La poésie des mots de Binet, ça, rédhibitoire, anti-inflammatoire. C'est son Dieu.
Pays donc des malades, et surtout des lépreux. Dessina des objets, surtout des bibelots. Fit quelques esquisses du drame de Waterloo et de Jérusalem à l'entrée de nos preux. Il dessina ensuite des plats de tarama.
Ah bon ?
Tartiflettes dorées, assiettes de raclette, des jeunes filles exsangues, couronnées de bouclettes, mais ruinées, choisit le canal de Paname. Il revint à la base, comme Nefertiti, des beautés rebondies, Circé, Nausicaa, dont il vanta les charmes, peignant qu'à un cas, ces femmes caressant le même Ouistiti.
C'est pas mal, hein.
Oui. C'est une image. Hein.
Oui. C'est une métaphore.
On a souvent l'impression que c'est de la prose, non, Jacques Vallée ?
Non, c'est très beau, c'est nostalgique, on a envie de pleurer.
Ah bon ?
C'est devant comme devant des belles peintures du 18e.
Surtout avec Waterloo.
Oui, oui. C'était une prémonition.
Oui.
Parce que la gare de Waterloo a existé avant la bataille.
Bien
évidemment.
Sûr, bien sûr.
Oui, c'était la plaine qu'on en peignait.
Bon, c'est assez joli, hein. Patrice de Châteaudun, en fait, c'est Jean-Bernard Pouy, mais il n'ose pas assumer
ses
poèmes. Alors, il se cache sous un pseudonyme. Patrice de Châteaudun.
Mais c'est pas assez.
Et vous, Lucas Fournier, vous ne vous cachez pas.
Non,
vous dites je
pas.
Suis Lucas Fournier.
Oui.
Et j'écris sur Jean-Bernard Pouy ou sur Patrice de Châteaudun ?
Sur Patrice de Châteaudun, dans Châteaudun Hebdo.
Oui, ça tombe bien.
Supplément littéraire.
Oui.
Voilà. Il est des moments où l'affection doit céder à la vérité de l'artiste. Et 30 ans après notre première rencontre sur les bancs du lycée Albert Samin à Châteaudun, qui vit naître une amitié que ni les rides ni les épreuves n'ont jamais altérée, 30 ans après, Patrice de Châteaudun répond toujours présent à la convocation que lui fit naguère Cocteau « Étonnez-moi ». En fermant l'ouvrage de Patrice de Châteaudun, on sent bien qu'on ne restera pas indemne. On est étonné. Étonné de l'audace d'un vers libéré des contraintes de la métrique, libéré des objurgations impérieuses de la rime, libéré du sens ordinaire, libéré d'à peu près tout, comme si, avec la sérénité de l'âge, s'épanouissait aussi, sous la plume de PDC, une virevoltante fantaisie de jeunesse qu'une éducation parentale et rigoriste avait cadenassée, encore après la puberté. Et l'on se prend à songer que derrière les portraits chatoyants, torréfié, lyrique, échevelé et crépitant de ces peintres oubliés, se dessine en palimpseste. Alors ça, il faut toujours mettre ce mot dans un article.
Ça fait très bien. Oui.
Se dessine en palimpseste le visage bouleversé de l'enfant rêveur, amateur de livres et d'estampes que fut Patrice de Châteaudun. À Degas qui interrogeait Mallarmé, « Maître, j'ai des idées de poèmes, que faire ?» L'auteur des Inanités sonores répondait, « Monsieur le peintre, un poème ne se fait pas avec une idée, mais avec des mots. » L'ouvrage de Patrice de Châteaudun est plein de mots, comme si Mallarmé avait murmuré à l'oreille du peintre poète de l'heure et loire, que dis-je de l'heure et loire, de l'heure et gloire. Non, nous ne les oublierons jamais, vos peintres oubliés.
C'est magnifique. Hein.
Magnifique.
Alors,
je sens un bug.
Oui, une
enfin bon, mais c'est magnifique.
Un petit peu, oui.
Depuis toujours, à mon avis.
Depuis sa main.
Non, mais là, c'est la gloire à nouveau pour Patrice de Châteaudun, oui. Avec un papier pareil. Moi, je ne savais pas qu'il écrivait aussi bien, Lucas Fournier. Hein. Ailleurs, je veux dire, en dehors des papous. Hein,
Papous,
je sais qu'il écrit très, très bien.
Oui, oui. Ben, vous faites une découverte, alors.
Quand le sujet est bon, le papier est bon.
Jacques Vallée, vous avez joué avec les mêmes mots.
Oui.
Il y a un couple de rimes qui vous a déplu.
Non. Ah oui, c'est Lépreux, Épreux.
Qui venait de vous?
Mais oui, je me demande qui a pu amener ça.
Ben oui, c'était à la fois très contraignant et très embêtant à glisser.
Oui, c'est très embêtant.
Ça colore tout le poème?
Non, pas du tout.
Vous l'avez escamoté un peu.
Un peu, enfin je l'ai mis, il passe.
Il passe vite fait.
Voilà.
Oui. Est-ce que vous signez vos poèmes sous votre propre nom?
Non, j'ai deux séries de pseudonymes.
Ah oui?
Je m'appelais Homer 2, mais, mais tout le monde rigolait tout le temps en classe.
Oui.
Donc je me suis appelé Homer 3. Homer 3.
Homer 3, ça vous va très bien.
Oui,
mais
oui.
C'est votre petit nom, votre nom de famille?
3, c'est mon nom de famille.
D'accord.
Et Homer, c'est mon prénom.
Prénom, d'accord.
Bah oui, bah, vous ne connaissez pas
des Homer?
Si, Omerta, on connaît.
Alors, le titre du poème, c'est quoi?
Alimentaire, mon cher.
Et le mot qui vous a inspiré l'histoire?
Ça doit être Waterloo et frites. Frites, je crois.
Et le recueil, il a un titre?
Les plats pays, mais les plats, c'est les plats qu'on mange.
D'où la frite, oui.
Ben oui, je suis un écrivain qui écrit sur la nourriture.
Vous êtes un écrivain alimentaire.
Alimentaire, voilà. C'est pour ça que je mets alimentaire comme titre.
D'accord. Et vous en vivez bien?
Ça me fait grossir un peu. Rappelle-toi, mon Aphrodite, quand tu étais à Waterloo, tu paraissais un bibelot lorsque tu t'empiffrais de frites. Je croyais voir Nausicaa avec tout l'or de tes bouclettes, mais tu t'es mise à la raclette et tu allas quinca. Puis, avec ton cousin Hubert, tu séjournas à Panama, tu te bourras de tarama, ce qui fit enfler tes Robert.
Oh, Robert, très joli détournement de Hubert Robert, oui.
Ta peau prit des tons de lépreux ou de joueur de canasta. L'obésité te dévasta, alors je ne fus plus ton preux. À coup d'anti-inflammatoire, tu devins même un ouistiti. Tu n'étais plus Nefertiti. Ce fut pour moi rédhibitoire. Rappelle-toi, mon Aphrodite, quand tu étais à Waterloo, tu ressemblais à un bibelot lorsque tu t'empiffrais de frites.
Ah, c'est joli que ça revienne. On a envie de reprendre tous en cœur.
Écoutez, vers l'agneau.
On dirait une chanson de Charles Aznavour.
Oui, c'est une belle chanson. Bah,
c'est bien de ne pas avoir en plus ajouté de la mayonnaise et du ketchup.
Jacques Brel.
Il manque Jacques Brel dans le poème, oui. Comment vous trouvez ça, Jacques Jouet?
Eh bien, c'est une très belle déclaration de non-amour. Ouais. Très dure.
Violente.
Bah, c'est un amour déçu, quoi.
Ouais, c'est comme Aznavour.
Tu te laisses aller.
Tu te laisses aller. Les choses avec les bâtons. Bien sûr, bien sûr.
C'est un cri d'amour.
Les années passent.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Delphine Baudet. À podcaster sur franceculture.fr et les commentaires, c'est sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre, les amis. On se retrouve dimanche à 12h50 pour la première partie de notre émission enregistrée en public, Mariage au papou dans la tête. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute des programmes de France Culture.